C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, Riek Machar évincé du pouvoir au Soudan du Sud. Expropriation sans indemnisation au Cameroun. Grève des magistrats au Mali, mais aussi dans plusieurs secteurs au Tchad. Enfin, vacances scolaires au Burkina, l'occasion de travailler pour certains enfants burkinabés. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir s'est débarrassé de son rival Riek Machar. Dans un décret, il a ordonné la nomination de Thabang Deng Gai au poste de vice-président. Quelles sont les implications sur l'accord de paix signé à Addis Abeba le 26 août dernier ? Eric Manirakiza a joint Roland Marshall, chercheur sur la Corne de l'Afrique au CERI, le Centre d'études de relations internationales.
Le premier effet, c'est que aujourd'hui, on tend à oublier de se demander qui sont responsables des affrontements à Djouba dizaines de jours maintenant. Ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que l'impunité va continuer. La deuxième chose, c'est que évidemment, cette nomination, elle va diviser le camp de Riek Machar et d'une certaine façon, elle fait craindre des affrontements qui, au moins dans un premier temps, seraient localisés dans les zones où Riek Machar est le plus populaire et les nuers sont les plus nombreux. Et puis, troisième effet, si vous voulez, c'est que l'exclusion, enfin la mise à pied de Riek Machar, même si juridiquement elle n'est sans doute pas une aberration, elle pose le problème de l'accord de paix qui a été signé en juillet dernier et de la continuité de cet accord de paix. Est-ce qu'il faut, à partir de là, considérer que cet accord de paix est fort clos, qu'il n'a plus aucune valeur, puisqu'il y a un nouveau leader, un nouveau vice-président qui va prendre des décisions librement ou est-ce que c'est simplement le remplacement d'un homme par un autre? Mais en général, dans les accords de paix, le choix est laissé à la partie et pas à l'adversaire. On a le droit d'être extrêmement inquiet sur ce qui va se passer au Sud-Soudan dans les semaines qui viennent.
Le président Salva Kiir s'est appuyé justement sur les dissensions au sein de l'ex-rébellion. Est-ce que c'est dans son intérêt?
Ce conflit est un conflit très politique. Il a différentes dimensions, une dimension ethnique évidemment, mais qu'il a aussi une dimension personnelle. Donc on peut imaginer que voir Riek Machar disparaître de Djouba est plutôt une bonne nouvelle pour Salva Kiir. Maintenant, je crois que Salva Kiir n'est pas un homme d'État et il est très possible, une fois de plus, qu'il se soit laissé aller et qu'il ait suivi le conseil de son entourage et qu'il ait pris cette décision sans en mesurer toutes les conséquences.
L'Union africaine veut une force beaucoup plus de mandat pour se battre. Est-ce que vous pensez que c'est une force qui peut remettre de l'ordre à Djouba?
Ce qu'il aurait fallu faire, c'était évidemment démilitariser Djouba. Je suis assez étonné que les Nations Unies aient si mal travaillé à cet objectif. Alors on peut rajouter une force de l'Union africaine qui sera peut-être un peu plus disposée à avoir des victimes. Mais il faut le dire crûment, il n'est pas question que l'Union africaine fasse la guerre à l'armée soudanaise dans la capitale.
Roland Marshall, chercheur sur la Corne de l'Afrique, au CERI, le Centre d'études de relations internationales. Au Cameroun, quand va-t-on indemniser les familles déplacées pour des raisons de construction de nouvelles infrastructures ? La question reste posée, mais pour l'heure, ce sont des fonctionnaires qui ont été emprisonnés pour détournement de ces fonds d'indemnisation. La correspondance de Sandrine Nyamga à Douala.
Au Cameroun, des populations ont été déguerpies dans plusieurs localités pour des projets d'envergure, soit la construction d'une route ou de quelconque infrastructure. Seulement au départ de tous ces projets, le même refrain est entonné, celui de l'indemnisation des populations riveraines. Du projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar à l'est Cameroun à celui de la construction du port en eau profonde de Kribi dans le sud Cameroun, la problématique est la même. Pour ce dernier cas par exemple, des fonctionnaires ont été mis aux arrêts après que leur gestion du dossier des indemnisations a été décriée. 6 années après le début de l'opération, ces agents de l'administration camerounaise sont soupçonnés d'avoir, selon les autorités, détourner environ 4 milliards de francs CFA, représentant les indemnisations des populations des Gapi à Kribi. Omar Ndoumbé, habitant de Kribi, est proche d'une victime d'expropriation.
Vous savez que cette magouille était en train d'être faite par les autorités administratives. Vous savez, c'est eux qui ont l'information. Quand ils ont su que le port allait être créé et qu'il y aurait forcément des indemnisations, eh bien, ils se sont, en complicité avec les détenteurs de terrain, autorisés à faire des titres fonciers frauduleux.
Dans la ville de Douala, au Cameroun, autour de la construction du deuxième pont sur le Vouré, des populations ont dénoncé le processus d'indemnisation mis sur pied. Papa Joseph reste encore sous le choc en se rappelant d'une scène vécue lors du partage des sommes dues aux populations des guerpilles du lieu-dit Bonantonais, parmi lesquelles un inconnu.
Celui-là n'est pas parmi nous ici. Depuis que nous n'avons pas Bonanjo, on ne le connaît même pas. Mais hier, notre grand supplice lui porte un grand somme d'argent, 114 millions. Pourtant que nous, les concernés, on n'a rien eu. Vous voyez, c'est que nous, on a investi. Mais nous, on n'a rien eu. Lui, cela a pris 114 millions. Et quand tu regardes sur le lieu, il n'est pas ici avec nous.
C'est donc clair, les problèmes nés de la gestion des indemnisations sont quelquefois orchestrés par les autorités au détriment des populations. L'analyse est de Jules Bertin Kemajou, juriste.
Les personnes informées, les premiers qui sont généralement dans l'administration, le plus souvent s'arrangent à anticiper, soit aller s'accaparer des espaces parce qu'ils savent qu'il y aura des guépissements et rapidement se fabriquent des faux titres fonciers pour être identifiés et recensés comme étant des victimes. Par contre, la population, le peuple lambda qui occupe cet espace et qui ont mis en valeur depuis des longues dates, le plus souvent, ils ne sont pas bénéficiaires de cette indemnisation du fait de cette combine et de cette mafia.
Le défenseur des victimes de déguerpissement va plus loin, regrettant que plusieurs populations soient dans le doute, ne sachant rien sur des processus entamés depuis des décennies. Jules Bertin Kemajou explique.
Du Lars Loubépanda, où des gens sont en attente d'indemnisation depuis 30 ans. Ils ont été déguerpés en 86. Il y a un décret d'indemnisation d'environ 1,8 milliard pour 908 familles. Ils n'ont jamais rien reçu.
Plusieurs projets sont encore en gestation, plusieurs infrastructures à mettre sur pied. Mais dans l'opinion ou dans l'opposition, on craint de voir des populations subir les mêmes frustrations que les autres ailleurs, dans d'autres localités. Et de Sandrine Yamga, Douala Cameroun, Voix de l'Amérique.
Vent de mécontentement sur le continent. Tout d'abord au Mali, les magistrats sont en grève pour 72 heures depuis aujourd'hui, mercredi. Le président du syndicat autonome de la magistrature pointe du doigt l'échec des négociations avec le gouvernement. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La cour d'appel de Bamako était bourrée de monde. La raison est simple, il y avait une assemblée générale d'information du syndicat autonome de la magistrature SAM. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du comité directeur du SAM.
L'Assemblée générale, je pense que vous l'avez suivie en même temps que nous, parce qu'elle était ouverte à tout le monde. Donc, il était question de débattre du maintien du préavis de grève, faire le point des préparatifs de cette grève pour qu'elle puisse être une réussite. C'est unanimement arrêté par les magistrats, comme quoi la grève est irréversible du fait de la mauvaise foi de nos interlocuteurs qui étaient les représentants du gouvernement. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui prêts pour aller à cette grève et c'est une grève qui ne va pas observer de service minimum.
Pendant une semaine, les magistrats étaient à la table de conciliation avec le gouvernement. La plupart des points de leur cahier de doléances demandent une amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats maliens.
Les négociations ont échoué parce que les points qui constituaient la substance même du cahier de doléances n'ont pas fait l'objet d'accord parce que cette grève vise l'amélioration des conditions des magistrats qui est aujourd'hui nécessaire pour assurer leur indépendance économique. Les points d'accord ont porté sur 8 points, sur les 26 points de revendication. Et les points d'accord sur les 8 points, ce n'étaient pas des points essentiels. Mais les points essentiels n'ont pas fait l'objet d'accord. Et c'est ce qui fait que notre grève se justifie à tous les niveaux.
Malgré le fait qu'il y a un autre syndicat de magistrats, les SAMP pensent que sa grève sera suivie. Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du comité directeur du SAMP.
C'est une cause commune. Le syndicat autonome de la magistrature, le syndicat libre de la magistrature, nous sommes des magistrats, nous poursuivons les mêmes intérêts, les mêmes buts. Donc il n'y a pas de raison qu'un syndicat ne soutienne pas les actions de l'autre. La grève commencera le mercredi et se poursuivra jusqu'au vendredi et prendra fin le vendredi à minuit. Ça veut dire qu'on sera au travail jusqu'au lundi.
C'est ce lundi 25 juillet 2016 que les négociations sans gouvernement ont connu leur épilogue dans le cadre de la commission de conciliation. Sur les 27 points de revendication, il y a un point qui a été retiré. 8 ont eu des suites favorables et 17 n'ont pas été satisfaits. C'est pour cela que le SAM a maintenu sa grève de 72 heures des 27, 28 et 29 juillet 2016 sur l'ensemble du territoire national. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Grève également au Tchad, elle concerne les bureaux de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, et l'Office national des radios et télévisions du Tchad. Les agents de ces deux institutions revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail. On fait le point avec André Komanjingar.
Le syndicat de l'Organisation des aérodromes du Tchad exige à travers cette grogne, entre autres, la réhabilitation des allocations de congés, l'application de la grille 1041 pour un traitement égalitaire vis-à-vis de l'ASECNA communautaire, la formation continue en matière d'évaluation et le recyclage de tous les agents. Le dit syndicat accuse l'administrateur délégué de refuser toute tentative de dialogue dans l'impérieuse nécessité d'améliorer les conditions de vie et de travail peu enviables des agents des activités aéronautiques nationales du Tchad. Abdelkrim Saleh parle des conséquences que cette grève pourrait engendrer.
Il n'y aura pas de vol en partance des provinces et cela affecte même l'économie du pays. Il y a des organismes, des institutions internationales qui se déplacent et puis en province certainement on est en saison pluvieuse. À chaque moment ils ont besoin vraiment des données météorologiques et toutes les radios, les stations seront fermées.
La grève est poursuivie en Djamena comme en province. Pour l'administrateur délégué mis en cause, cette organisation est illégale et ne peut en aucun cas appeler à une cessation quelconque de travail. L'organisation syndicale des aérodromes du Tchad accuse l'administrateur délégué de faire pression sur les agents d'être à leur poste. Ahmad Hassan Ourouzi réagit.
Quel genre de pression? C'est normal quand quelqu'un n'est pas là à son poste. Moi, étant représentant de l'administration, je suis obligé de les interpeller pour qu'ils regagnent leur poste. On ne peut pas payer quelqu'un qui n'est pas présent à son poste. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est conforme à nos textes. Et moi, je trouve que c'est des perturbateurs qui sont mal intentionnés, qu'ils veulent ternir l'image de cette institution très noble.
Les agents de l'ONRTV, Office national des radios et télévisions du Tchad, quant à eux, après trois jours de grève d'avertissement avec service minimum sans succès, décident de reconduire leur débrayage pour une semaine renouvelable. Ces agents revendiquent l'application de la convention d'établissement qui intègre tous les avantages du métier. La direction évoque la crise financière que traverse le pays pour ne pas appliquer cette convention. Remadi Adel est la présidente du syndicat national des professionnels de l'Office des radios et télévisions du Tchad.
Chaque jour, on continue à prélever un fonds sur tous les appels sur l'étendue du territoire. Donc, où est la RAV, la redevance audiovisuelle, allouée à l'ONRTV? La convention d'établissement a été signée en 2011. Est-ce qu'en 2011, il y avait ce problème de conjoncture économique? Nous voudrions bien que l'administration essaie d'être conséquente avec elle-même. Pourquoi est-ce qu'en 2011, ça n'a pas été appliqué? En 2012 non plus, en 2013 non plus.
André Kodmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Les élèves du FASO occupent leur temps de vacances scolaires. Il y a ceux pour qui vacances riment avec repos et il y a ceux qui travaillent pour faire des économies pour la rentrée ou pour aider leurs parents. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Zoumana Wanogo.
Comme l'a dit un chanteur célèbre ici au Faso, vive les vacances, finis les devoirs, les dictées, les interrogations, c'est le repos. Mais tous les élèves ne prennent pas les vacances comme un temps de repos total, partagé entre les loisirs, le sport et les voyages. Certains font des jobs de vacances, suivant leur histoire.
Kaboulé Ali, je fais la classe terminale. J'ai passé cette année le bac, ça n'a pas marché. Maintenant, les vacances, je n'ai pas le temps de jouer au ballon. Je fais le commerce. Les vacances, c'est le repos, mais il faut que je fasse ça pour soulager mes parents. Je vends les montres, je vends tous les habits, sorte de marchandises que je peux vendre, avoir de bénéfices. Je tourne dans la ville pour avoir les clients. Je prends 25 000 avec ma maman chaque vacances pour commencer le commerce. D'ici la rentrée, je peux avoir un mot. C'est que l'agent de la scolarité, je peux avoir ça pour. Et puis me payer des habits et puis des cahiers. C'est pas bon de dormir. Grâce à mon commerce, à la rentrée, je vais soulager mes parents.
Je m'appelle Wamba Florence, élève en classe de seconde. Pendant les vacances, j'aide ma tante à vendre les condiments au marché, les légumes, tomates, oignons. Cela me permet de rencontrer beaucoup de gens, de me divertir aussi. À la fin de la journée, elle me remet une somme de 200 francs. On ne peut pas dire qu'elle me paye. Bon, c'est un encouragement en quelque sorte. Je vais cotiser l'argent et à la rentrée, je vais me payer quelques habits. Comme ce sont les vacances, je préfère me concentrer sur ça et laisser à la rentrée pour penser aux études. Je dis aux autres de suivre mon exemple. Même si ce n'est pas vendre les condiments, peut-être qu'il peut faire autre chose au lieu de rester à la maison, ne rien faire.
Bonjour, mon nom est Sandro Abdul Karim. Je suis élève. Je suis privé Marie-Véronique, seconde C. Pendant ces vacances, là, je suis dans un atelier de couture pour apprendre à coudre, pour ne pas rester à la maison, quoi. Et puis ne rien faire. En faisant la couture, je gagne de l'argent. Ça occupe mon temps. Voilà. Donc j'arrive à gagner les petits choux que. J'utilise pour acheter des petites choses que j'ai envie, quoi. Grâce à la couture, là, j'arrive à gagner de l'argent que j'achète mes fournitures pendant la rentrée. Je gagne beaucoup, comme apprendre à coudre les habits. Ensuite, je gagne de l'argent qui va me permettre d'acheter mes fournitures pendant la rentrée scolaire prochaine. Sac, cahier, bic, chaussures aussi. Bon, ça soulève en même temps les parents. Les autres élèves, là, je les encourage beaucoup à ne pas rester à la maison sans rien faire.
Zumanago Nogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Josène Morissin. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec le Sénégalais Baba Mahal et son titre Kala Djo. Bonne soirée et bonne nuit à tous.